C'est Mathieu Godreau que je salue. Bonjour Mathieu.
Bonjour Robert.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous autres 2-3 minutes plus de bonheur.
Écoute, ben, il n'y a pas de problème. Je t'entendais parler du projet de l'université à Trois-Rivières. Si ce que je sais est vrai, il ne se passera rien avant mercredi, parce que mercredi, il y aura un projet de loi qui sera extrêmement favorable à l'université. Un projet de loi déposé par le gouvernement qui sera très, très favorable aux demandes de M. le recteur au détriment des employés et des professeurs.
Oui, bien, écoute, ce que Jason Goff a dit tantôt, c'est que le financement des universités sera bonifié.
Ben oui.
De plusieurs millions.
Ben, de plusieurs millions, c'est pas pire, ça. Écoute, j'espère que ça va se rendre jusqu'aux salles de classe, que ça va se rendre aux professeurs, puis que c'est des services aux élèves, mais ça...
Je pense qu'ici, là, veux-tu que je te dise ce que ça va avoir donné, ce conflit?
Hey, on change mon sujet d'aujourd'hui, puis on jase de ça.
Non, mais on peut jaser de ça, puis on en viendra à Trump tantôt, là. Je l'ai vu ce qui se passe à Jérusalem aussi, là. Je sais pas si c'est de ça dont tu voulais me parler, mais juste pour dire, y a du gras, OK, dans les dépenses des universités, puis qu'il faut dégraisser, puis qu'il y a une partie de la responsabilité qui appartient aux professeurs, est-ce qu'on pourra poser des questions sur l'administration à proprement parler, les gestionnaires des universités, les salaires que l'on donne aux recteurs dans les universités?
Ben voilà. Et c'est ce qu'on fait pas. On le fait jamais. À chaque fois, c'était la même chose en 2012. À chaque fois, les coupures et les restrictions de budgétaires tombent sur le dos des professeurs, des laboratoires, des enseignants. Et finalement, c'est l'étudiant au bout de la ligne qui paye. Mais on n'a jamais de véritable vérification comptable sur les dépenses des gestionnaires et qu'est-ce qui se passe exactement, les salaires astronomiques dont tu parles, excuse-moi, là, même pour attirer des candidats de valeur comme un recteur d'une université, je ne pense pas que ça prend un salaire à ce niveau-là. On l'a eu ici à l'Université de Montréal avec le recteur Guy Breton, qui est un très, très proche du Parti libéral, qui, il y a des dépenses hallucinantes à l'Université de Montréal qui ont été faites dans les dernières années. Bouf, il se passe rien. Il n'y a jamais eu d'enquête là-dessus. Tout a été effacé. Et tu te rappelles qui était la vice-rectrice à l'Université de Montréal? C'est Mme Hélène David. Donc, j'attends pas... si j'étais enseignant à l'Université de Trois-Rivières, je ne m'attendrais pas à un gros cadeau de la part de la ministre.
Bon, parle-moi
c'est
de... Hein?
C'est le même que ça marche à ce temps.
Tu me dis que Donald Trump a du sang sur les mains.
Oui, Donald Trump a du sang sur les mains. C'est terrible ce qui se passe en ce moment, justement, en Palestine. Aujourd'hui a lieu... l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine qui, cette fois-ci, est dans Jérusalem-Est, alors que l'ancienne ambassade était à Tel Aviv. Jérusalem-Est est un territoire qu'on appelle un territoire encore occupé, donc la propriété n'est pas encore définie entre Israël et la Palestine. Le problème, c'est que c'est un lieu sacré et pour les chrétiens, et pour les juifs, et pour les musulmans, et c'est une provocation pure et simple. Tout le monde, tous les pays... À l'ONU, tout le monde a dit à Donald Trump, ne déménagez pas l'ambassade, s'il vous plaît. Vous allez mettre le feu aux poudres. Et qu'est-ce que M. Trump a décidé de faire? Il a déménagé, bien entendu, l'ambassade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu à 52 morts palestiniens parce qu'il y a des manifestations. Et les Israéliens, pour célébrer l'ouverture de la nouvelle ambassade, se paye un feu d'artifice extraordinaire sur le dos des gens qui sont armés de lance-pierres et de petits canifs.
C'est comme si ça fait son affaire qu'il y ait du trouble dans cette partie-là du monde.
Ben,
il faut que ce soit une partie du monde au plan politique qui soit en constant déséquilibre.
Écoute, Donald Trump est, selon ce qu'on entend, très proche de la Russie et aussi très proche d'Israël et des finances. C'est quand même assez terrible ce qui se passe. Et tout ça se fait, bien entendu, on en entend presque pas parler aujourd'hui. T'en entendras pas parler non plus. Et ce qu'on va apprendre dans les communications officielles américaines et israéliennes les prochaines journées, c'est que ceux qui ont été tués, ben c'était des terroristes. On sait très bien que c'est des enfants, des pères de famille et des mères de famille qui se battent pour le petit lopin de terre qui leur reste. Parce que à la division... En 1948, je crois, de la fondation d'Israël, les terres étaient quand même bien partagées. Chacun avait accès à l'eau, à la mer. Et là, tout ce qui reste aux Palestiniens s'est rendu tout petit comme peau de chagrin. Et Israël va continuer à essayer d'éliminer ces gens-là.
Écoute, je peux-tu t'amener en terminant sur... c'est une nouvelle qui vient de tomber. Locke Merville a décidé de plaider coupable au palais de justice de Montréal, où son procès devait débuter aujourd'hui. Il plaide coupable à des chefs d'accusation d'exploitation sexuelle.
Des gestes qui ont été posés en 96.
En 96. Est-ce que tu penses que dans la foulée de Locke Merville, d'autres pourraient éventuellement être accusés? Puis là, on parle de Salvay. Il paraît que les enquêtes sont terminées, que le DPCP a le dossier entre les mains. Est-ce que tu penses que ces gens-là vont être accusés éventuellement? Il me semble que ça. Y en a qui disent, il faut qu'ils prennent leur temps, puis que les délais sont corrects, puis c'est normal. Est-ce que tu trouves que les délais, dans le cas de M. Rozon et d'Éric Salvay, sont raisonnables?
Oui, tout à fait raisonnables. C'est extrêmement complexe. Ça a été très émotif. Je crois, comme je t'en avais déjà parlé, que les enquêtes se faisaient dans l'ordre, bien entendu. Il y avait plusieurs victimes à rencontrer. Je pense que c'est durant le mois de mars qu'il y a eu les rencontres avec les victimes, les policiers avec les victimes. Ce qu'on a appris, c'est que les représentants du DPCP étaient à ces rencontres-là aussi. Ensuite, il faut qu'on étudie le dossier et pas qu'on... faut pas accuser quelqu'un sans véritable motif. Et le DPCP fait la démonstration depuis plusieurs années qui va aller en procès seulement s'il est convaincu de gagner. Donc, ils prennent leur temps et ils préparent leur dossier très comme il faut.
As-tu regardé le gala artiste hier?
Un petit peu, oui, petit peu.
De l'amour, du love en masse pour nous faire oublier toutes ces histoires-là?
Oui, ce que j'ai vu, c'était beau. Les vêtements étaient magnifiques. Les gens chantaient bien. Magali Lépine-Blondeau est un petit peu saoule, c'est elle-même qui l'a avoué. Donc,
elle a dit, je ne sais pas si peut-être que Serge l'a pas la cote, là, mais il peut fouiller Serge vite pour la retrouver. Mais elle a dit, ce qui m'horripile lors des galas, c'est les gens qui sont un peu chauds, puis l'autre affaire, là, c'est...
C'est les gens qui sont pas préparés, puis qui arrivent sur scène un petit peu chaud, puis moi, je suis les deux.
Je suis les deux actuellement. Elle n'est pas un petit peu prétentieuse aussi, Mme Blondeau, peut-être? Un peu?
Non. Je te jure que non. Ce que tu peux peut-être prendre pour de la prétention, c'est de la profonde timidité. Et ça, je te le certifie. Je te le jure, Robert.
Oui?
Oui. Ça, je te le confirme, je te le jure. Oui. C'est vraiment quelqu'un de... C'est pas une extravertie, même si c'est une actrice, puis on pense que les acteurs sont tous extravertis. C'est quelqu'un de très, très posé et de très timide. C'est pas du tout prétentieuse.
Ouais. J'en ai une petit extrait sonore de Mme Blondeau, si tu veux, pour te faire plaisir.
J'ai envie de leur dire que je n'ai jamais été quelqu'un de populaire. Pas quand j'étais enfant, pas quand j'étais ado, puis pas tellement plus adulte non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de compromis sur la personne qu'on veut être dans la vie, qu'on n'a pas besoin de faire l'unanimité pour être aimé.
Oui, c'est vrai qu'elle a l'air sympathique. Non, c'est parce qu'elle s'exprime bien, elle prend son temps. Est-ce que c'est une artiste qui je vais être obligé de te croire là-dessus. Non, l'impression qu'on avait, on a parlé, la gang, le matin, quand on préparait l'émission, on se disait, est-ce qu'elle n'est pas un peu hautaine, au-dessus de son affaire? Je vais être obligé de te croire.
Oui, t'as pas le choix. C'est vrai, elle et son conjoint, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement simples malgré tout le succès qu'ils ont.
Merci beaucoup. Toujours un bonheur. Puis merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de permettre à cet auditoire de t'entendre 5 minutes avant ton temps.
Bon, il n'y a aucun problème. Je suis toujours prêt pour remplacer un ministre. Appelle-moi et donne-moi un ministère. Moi,
c'est un ancien ministre, là. Il n'était pas tout à fait ministre. Il a été ministre, mais il a été dégommé. C'est Jean-Denis Girard.
Ah, OK. J'avais juste entendu un petit peu son nom. Écoute, bonne chance avec l'entrevue. Et surtout, et je le dis, bonne chance à tous les travailleurs qui sont en lock-out, autant à Bécancour qu'à l'Université de Trois-Rivières. Un lock-out, c'est de la vulgarité patronale.
Merci.
Ça, je le dis, je le répète.
Merci beaucoup. Bien entendu, le message est passé. À bientôt.
Salut. Bye.
Notre démêlé du lundi, un petit peu d'avance. À la pause, Robert Aubin, le député de Trois-Rivières, qui a commenté l'arrivée de plus en plus possible d'Yves Lévesque à titre de candidat lors des prochaines élections pour le Parti conservateur. Il a décidé de venir ici même en studio et est avec nous autres dans 2 minutes.